et nous croyons que notre Dieu a un plan merveilleux pour nous. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Nous croyons que tu la oint et nous croyons en ta bénédiction qui se fait suivre d'aucun chagrin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Nous allons lire nos Bibles dans 1 Samuel 14, versets 6 à 15. C'est une bonne portion, mais je crois que par la lecture de la parole, il y a quelque chose que Dieu déclenche aussi dans nos vies. Nous devons être des lecteurs de la Bible. Je vais juste vous demander un petit exercice de nous lever pour honorer l'autorité de la parole. Pendant que nous lisons cette portion des Écritures, 1 Samuel 14, 6 à 15. Nous lisons à l'unisson, 1, 2, 3. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, « Allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'il nous dit, arrêtez et nous monterons vers vous. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons. Car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. » Verset 11. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins. Et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp dans la contrée et parmi tout le peuple, le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Le deuxième texte, c'est juste une phrase que nous devrions connaître par cœur, c'est dans Romains 8, 31. La Bible dit ceci, « Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Le thème de ce matin, de cet après-midi plutôt, c'est « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Amen.
Vous
pouvez vous mettre. Nous croyons que Dieu est avec nous. Bien-aimés, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous devons savoir que Dieu est pour notre salut. Dieu est pour notre bien-être. Dieu est pour notre bénédiction. Il est pour notre guérison. Il est pour notre paix. Il est pour notre restauration. Mais laissez-moi vous dire aussi notre vérité, c'est que Dieu est plus pour notre caractère qu'il ne l'est pour notre confort. Amen. Bien que Dieu veut que nous soyons heureux, Dieu veut plus, tient plus à notre caractère qu'à notre confort. Dieu veut plus qu'on lui ressemble, que l'on soit avec des biens et qu'on soit confortable. Il n'y a rien qui lui fait autant de joie de se voir en chacun d'entre nous, de nous voir lui ressembler. Alors, une autre question que je pourrais me poser, c'est en quoi et comment sommes-nous pour Dieu? Puisque si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais l'autre question qu'on ne se pose pas souvent, en quoi toi et moi sommes-nous pour Dieu? Et comment? C'est une question qu'on se pose pour s'assurer que Dieu est pour nous. Amen. Alors, il y a un grand défi que nous avons souvent, et c'est dans ce texte que nous le voyons, cette histoire de Jonathan. Ils sont devant un grand défi, mais il y a aussi une plus grande vision qu'ils ont. devant leurs grands défis. J'aimerais que tu aies l'habitude, que nous ayons l'habitude à associer nos grands défis à des grandes visions. Grand obstacle à une vision plus grande que ton obstacle. Amen. Ne laissons pas juste cloîtrer devant les obstacles, parce que les obstacles vont venir réduire notre vision des choses, notre perspective. Et c'est comme ça qu'ils nous engloutissent, c'est comme ça que des géants viennent nous engloutir. Par exemple, quand le médecin te diagnostique d'un cancer, ou il y a une rupture, un divorce, ou un enfant qui se perd, ou un emploi qui est perdu, ou une mauvaise nouvelle, quand nous avons juste les yeux fixés devant les défis, nous ne pouvons pas nous en sortir, ça réduit nos visions. Mais apprenons à associer les grands défis à des visions plus grandes. Et ici, nous voyons Jonathan avec son serviteur, le porteur d'armes qu'il avait. Ils étaient devant un grand défi, mais ils avaient une plus grande vision que leur défi. Leur plus grande vision, c'était « si Dieu est pour nous ». Malgré nos faibles ressources, malgré notre petit nombre, si Dieu est pour nous, nous pourrons vaincre. Nous pourrons passer au-delà. Alors, dans ce contexte, ils étaient en guerre contre les Philistins. Le roi Saül avait le gros de l'armée avec lui. Ils étaient dans un autre campement. Jonathan, contre lui, en tant que prince héritier, un homme habitué au combat, était avec son porteur d'armes. Mais ils étaient isolés. Ils étaient à l'écart pour X raisons. Ils avaient décidé juste de se séparer de la foule sans avoir dit à qui que ce soit. Bien-aimés, laissez-moi vous encourager. Parfois, pour aller loin, ça nous prend de nous séparer. Les aigles sont des aigles, les oiseaux les plus puissants du ciel. Mais ils ne volent jamais en groupe. Ils sont souvent singuliers, isolés, pour aller dans les hauteurs. Et pour avoir des percées. C'est pour ça, parce qu'ils ont une vision perçante. Mais les pigeons n'ont pas une vision aussi perçante que les aigles. C'est pour ça que ça le prend de voler en groupe. Je t'encourage, si tu veux avoir une vision élevée, sépare-toi de la foule pour monter dans les hauteurs. Et c'est ce que Jonathan a fait avec son homme d'armes, avec son porteur d'armes. Leur vision était simple. Si Dieu est pour nous, amen, nous pourrons faire des exploits malgré nos petites ressources. Parce que Dieu, ça lui est égal de sauver avec un grand nombre ou un petit nombre. Les hommes vont regarder à leurs ressources. Mais ceux qui ont une grande vision vont regarder au Dieu qui est capable de les faire transcender de tous les obstacles. Ma question pour toi et pour moi, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu as une vision dans laquelle tu vois Dieu pour toi? Si Dieu est pour toi, quel est cet obstacle? Quel est ce défi devant toi? Si Dieu est pour nous, quel est le défi d'Oshelaga Maisonneuve? Si Dieu est pour nous, quel est cet obstacle familial, financier ou que sais-je? Amen. Et Jonathan avait cette vision. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est pour nous quand il est avec nous. Il ne peut pas être pour toi s'il n'est pas avec toi. Amen. Et Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Donc, Dieu est pour nous quand il est avec nous. Mais Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Je retenais bien cette équation. Ça va nous aider. Parce que parfois, les gens avancent sans se poser la question. Ok, je veux que Dieu soit pour moi. Mais est-ce que Dieu est avec moi? Je veux que Dieu soit avec moi. Est-ce que je suis avec Dieu? Amen. Donc, tout commence que je sois avec Dieu, pour que Dieu soit avec moi, afin que Dieu soit pour moi. Très important de retenir cela. C'est une équation gagnante qu'on peut appliquer devant n'importe quel défi, devant n'importe quel obstacle. Et Jonathan, rien qu'avec son homme d'armes, laissez-moi vous dire un mot sur cela. Cet homme d'armes, les hommes d'armes qu'ils avaient à l'époque, c'était généralement comme des adjudants. C'était comme juste des officiers qu'on assignait à des généraux pour les aider à porter leurs armes supplémentaires. Mais l'une des choses qu'on demandait à ces porteurs d'armes, c'était juste d'être loyal. Loyal au général. Et Jonathan marchait, ils sont là, en train de contempler un obstacle. Voilà une grande garnison des Philistins. Nos ennemis sont là. Le gros de l'armée est loin de nous. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là attendre qu'ils prennent du terrain. Laisse-moi te dire donner un indice. Les défis que tu regardes, que tu contemples longtemps sans rien faire, ce sont des défis qui vont s'approcher et envahir. Laissez-moi vous dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. Cette mauvaise nouvelle que tu regardes sans faire de quoi, elle va prendre du terrain et ravager ce qui est encore de préserver dans ta vie. Comme une gangrène qui prend de l'espace. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit de rester passif. Passif devant la médiocrité. Passif devant les ténèbres qui ravagent nos familles, qui ravagent nos quartiers, qui ravagent nos arrondissements, qui ravagent notre pays. On ne peut pas rester passif devant la corruption chez les politiciens. On ne peut pas rester passif devant l'immoralité qui bat son plein dans nos nations. On ne peut pas rester passif devant un Québec qui se meurt. Ça doit être notre affaire aussi. Ce n'est pas parce que ces choses, tu ne les vis pas dans ta maison que tu vas fermer ta bouche. Parce que laisse-moi te dire, ce que tu vois chez le voisin qui ne marche pas est ton chemin vers ta maison. Et t'es mieux de te tenir et de dire, arrête, il y a quelque chose que je dois faire. Si Dieu est pour moi, je peux repousser cette vague. Parce que c'est comme ça que l'ennemi fait. Il vient petit à petit. Tu as laissé le mot de tête. Le mot de tête deviendra un cancer généralisé. Il faut que ça s'arrête ici. Tu as laissé une petite rébellion. Laisse-moi te dire, ça va enflammer tous tes enfants. Il faut que ça s'arrête quelque part. Le divorce qui bat son plein de gauche à droite risque de venir aussi dans ta maison, même si tu as le couple le plus heureux. Il y a quelque chose que tu dois faire. Lève-toi pour aider les couples en détresse. En les voyant comme si c'était ton propre couple. Amen. Et c'était la position de Jonathan. Il a regardé. Et la vision qu'il avait, c'était oser de prendre de l'espace, du terrain dans le camp adverse, malgré le petit nombre ou les faibles ressources qu'ils avaient, en comptant sur la faveur divine. C'était ça la vision de Jonathan. Voici cette garnison. Si Dieu est pour nous, nous pourrons la prendre. Amen. Nous pourrons prendre du terrain. Nous pourrons les dominer. Nous pourrons amener la lumière là où il y a les ténèbres. Nous pourrons amener la guérison là où il y a la maladie. Nous pourrons amener la restauration là où il y a la destruction. Nous pourrons amener l'espérance là où il y a le découragement. Nous pourrons amener la joie là où il y a la tristesse. Quels sont les champs ou les terrains que l'ennemi occupe que toi tu peux contempler pour les prendre? Amen. Allons-nous juste laisser voir l'ennemi posséder des territoires et ne rien faire? Ce n'était pas la vision de Jonathan. Sa seule condition, si Dieu est pour nous, on peut faire quelque chose. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est merveilleux d'avoir des leaders comme des Jonathan. Je vois sa relation avec son serviteur. On a besoin des leaders qui ont une vision divine. Quand je vois papa Jean-Claude à son âge, qui a toujours cette ferveur et qui voit un réveil dans cette vie. Quelqu'un d'autre pourrait dire que c'est un fou. Amen. Pensez à son nom, Foucault, mais c'est quoi ça fait? Amen. Mais des gens comme ça, on a besoin de leaders fous, comme Jonathan. Parce que c'est une folie. Deux personnes prennent toute une garnison de plus d'une vingtaine de personnes. Humainement parlant, c'est une folie. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, bien-aimé. C'est ça, c'est l'ingrédient qu'il faut. Mais ça prend des serviteurs comme son porteur d'âme qui peuvent reconnaître la vision dans le fou. Amen. Où sont ces serviteurs qui peuvent voir au-delà du visionnaire et reconnaître un visionnaire qui porte une vision qui peut amener un changement? Son serviteur lui dit, vas-y, ne regarde pas à gauche ni à droite, fais ce que ton cœur te dit là. Moi, je suis déjà prêt à te suivre. Waouh! Un serviteur loyal, mais qui est aussi un encouragement pour le visionnaire.
Il y avait une symbiose, une collaboration. Mais c'est triste de nos jours d'avoir une forte vision de ce genre et pas personne, il n'y a personne qui est capable de vous suivre dans ça. C'est là qu'il y a une tragédie. L'autre tragédie, c'est d'avoir des gens qui sont capables de suivre, mais il n'y a personne qui a une vision de ce genre-là. Nous avons des visionnaires peureux qui ne veulent même pas s'engager dans quoi que ce soit. Mais un peuple qui attend, qui va se lever, qu'on pourra suivre. Amen. Alors, cette circonstance dans laquelle ils se trouvent, ils ont cette vision-là. Jonathan lance cette vision, mais l'autre chose qu'il fait, il s'assure de reconnaître que Dieu est avec eux. C'est la condition, c'est si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous. Mais maintenant, il s'assure. Ce n'est pas juste un slogan. Aujourd'hui, dans l'église, les enfants de Dieu sont, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous le chantons. Mais est-ce que nous le vivons? Es-tu vraiment sûr que Dieu est avec toi? Es-tu vraiment sûr que Dieu est pour toi? Moi, ma condition, c'est juste, est-ce que, si Dieu est pour toi, est-ce qu'il est avec toi? S'il est avec toi, est-ce que tu es avec lui? Il y a moyen de le savoir. Jonathan, maintenant, va exposer cela. Est-ce que Dieu, comment pourrais-je reconnaître que Dieu est avec nous? Qu'est-ce qu'il fait? Il va reconnaître quand Dieu est avec eux, quand Dieu livre les ennemis. Amen. Amen. Bien-aimé, l'issue du combat est dans ceci. Que Dieu soit pour nous, que Dieu livre nos ennemis. En fait, quand Dieu nous donne des victoires, ce n'est pas qu'on est plus fort que l'ennemi. Ne cherchons même pas à être plus fort. Et n'allons même pas aller et comparer nos forces avec les forces de l'ennemi. On va être engloutis, ça va nous déprimer. La seule chose qu'on a besoin de savoir, est-ce que Dieu nous livre ses ennemis? Parce que tout ce que Dieu m'a livré, j'ai la victoire et l'autorité dessus. Ce que Dieu t'a pas livré, tu ne peux pas le vaincre. Donc, l'issue, l'aspect, la chose la plus importante, est-ce que Dieu me livre ses ennemis? Est-ce que Dieu me livre ce territoire? Est-ce que Dieu me livre la dépression que mes voisins connaissent? Est-ce que Dieu me livre ce problème qui va chercher mon cœur à chaque instant? Est-ce que Dieu me livre les problèmes qui ne me laissent pas indifférent? Parce que c'est un indice que Dieu t'appelle à faire de quoi? C'est comme ça qu'on reconnaît aussi une vision commune. Parce que nous ne sommes pas tous dérangés par les mêmes affaires. Moi, je pourrais passer devant la pauvreté d'un enfant, ça ne me dit rien. Mais toi, ça te fait pleurer. Il y a forcément quelque chose que tu es capable de faire là-dessus. C'est une vision de Dieu. Moi, je peux peut-être être indifférent aux ruptures des relations, mais toi, ça te met dans une colère sainte. Il y a quelque chose que tu es appelé à faire dessus. Amen. Et il devait reconnaître que Dieu me livre cette situation. Est-ce que Dieu nous livre ses adversaires? Et bien aimé, savoir que Dieu nous livre nos adversaires, c'est parfois vraiment une affaire de discernement des temps et des circonstances. Et savoir agir dessus. C'est-à-dire, il va s'exposer. Il va poser un acte de foi. Amen. Amen. Avançons dans le camp. Faisons-nous voir, ne restons plus cachés. Amen. Si Dieu est pour nous, nous allons nous exposer. Amen. En nous exposant avec notre vision, Dieu va nous donner un signe. Nous allons discerner les temps, si c'est le bon moment d'agir, et aussi les circonstances pour savoir que Dieu nous livre ses défis, ses adversaires que nous voyons, que nous avions vu dans le secret, que nous avions vu en étant cachés. La vision a besoin qu'on s'engage. Amen. Si tu crois que Dieu est pour toi, Dieu est avec toi, engage-toi, avance un peu plus, implique-toi dans le champ, mouille-toi un peu, salis-toi un peu. C'était un risque qu'ils prenaient de se faire voir comme ça. Ils étaient à deux. Se faire voir devant l'ennemi te met dans une position vulnérable. Où ils pouvaient être dévorés, où ils pouvaient être assaillis, mais ils se sont dit, approchons-nous, faisons-nous voir.
S'ils nous disent, venez vers nous, nous comprendrons que l'Éternel nous les livre. C'était ça leur signe. Mais s'ils nous disent, on va venir vers vous, là Dieu n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'ils ont, ils n'ont pas fait le sens contraire? Ils auraient pu dire, s'ils nous disent, on va venir vers vous, l'Éternel nous les livre. Non. Ils ont dit, parce que quand Dieu veut prendre un territoire, Dieu s'avance. Dieu est proactif. Dieu n'est pas celui qui attend que l'ennemi vienne à sa porte. Dieu est celui qui est conquérant. Il est celui qui prend des territoires. Il est celui qui va posséder ce qui était entre les mains de l'ennemi. Et c'est ainsi qu'ils se sont dit, si l'ennemi nous dit « venez », ça veut dire que c'est l'Éternel qui est en train de parler à leur bout à travers eux. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est en train de les livrer entre nos mains. Peux-tu t'exposer selon la vision que tu as reçue? Selon ce champ, ce domaine dans lequel Dieu t'appelle à prendre du terrain dans le camp de l'ennemi. Ça nous prend cette audace, ça nous prend cette foi audacieuse, ça nous prend de nous engager. Parce que Dieu honore la foi de ceux qui s'exposent dans le champ de bataille. Ceux qui prennent des risques avec la vision. Amen. Mais Dieu est aussi capable de nous encourager par des signes. Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous savez, avant qu'il pleuve, la pluie ne tombe jamais comme ça. Il doit toujours avoir quelque chose. Les nuages s'obscurcissent avant la pluie. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi Dieu n'envoie pas directement juste la pluie. Parce que notre Dieu est un Dieu prophétique et un Dieu qui annonce avant qu'il puisse faire quelque chose. Il parle toujours. Il dit une chose et la chose arrive. Avant la venue du Christ, il a fallu que l'ange Gabriel se lève pour l'annoncer. Donc l'annonciation est tout aussi importante que l'accomplissement de la chose. Notre Dieu est un Dieu qui annonce, est un Dieu qui prédit les choses, est un Dieu qui proclame les choses. Je t'annonce aujourd'hui que l'Éternel est celui qui te guérit. Je t'annonce aujourd'hui que l'Éternel est celui qui te donne la victoire. Je t'annonce aujourd'hui que l'Éternel est celui qui te livre tes ennemis. L'Éternel est celui qui est avec toi. Je te l'annonce avant que cela n'arrive. Pour t'encourager. Amen. Amen. Et Dieu doit montrer des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il se fait. Bien aimé, c'est pour ça que quand les temps sont les plus durs, c'est vraiment pas le bon moment d'abandonner. Vous savez, je t'encourage même d'abandonner quand tout va bien. Contrairement à ce que la plupart d'entre nous faisons. Mais quand tout... le mal devient pire. Ouh! S'il te plaît, ne lâche pas. Ne jette pas l'éponge. Car tu es beaucoup plus près de ton salut que lorsque tu as commencé. Parce que les orages deviennent de plus en plus noirs avant une grosse averse. Alléluia. Parce que Dieu est sur le point de déverser sa pluie. Il est sur le point de déverser sa bénédiction. Il est sur le point de se manifester. Le Dieu qui est caché ne se cachera plus. Quand tu oses te manifester, Dieu doit se surmanifester. Quand tu te manifestes, Dieu se surmanifeste. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi s'est manifesté. Mais ça vient comme une provocation. Mais on a besoin que des hommes et des femmes s'élèvent avec courage et audace et se manifestent devant l'ennemi qui s'est manifesté dans la vie de nos enfants, dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos familles, dans notre nation. Il faut qu'on se lève, qu'on se manifeste. Si Dieu est avec nous, Dieu se surmanifestera. Mais nous faisons le premier pas. Nous n'attendons pas passivement que les choses arrivent. Jusqu'à quand le cancer va ravager les gens? J'ai perdu ma mère l'année dernière contre un cancer. Pendant 2 ans, elle a combattu. Et j'ai une rage contre cette affaire. J'ai dit, ce n'est pas fini. Mon affaire contre le cancer n'est pas finie. Amen. Au nom des pleurs, de la compassion, je me lève pour amener la guérison à tous ceux qui sont frappés par ce fléau. Que le cancer n'en ravage plus. En tout cas, si j'en croise une personne, Seigneur, qu'elle ne perde pas la vie par mon passage. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est aller réveiller un combat en moi. C'est aller réveiller une passion en moi. Une passion pour les malades. Une passion pour ceux qui souffrent. Seigneur, plus jamais entre mes mains
Seigneur, quelqu'un restera encore malade. Plus jamais j'oserai, même si on me dit que cette personne est en phase terminale, je m'avancerai. Elle sait assez manifester. Pourquoi est-ce qu'on doit rester passif? Pourquoi est-ce qu'on doit encore rester passif? Manifestons-nous, on a, qu'est-ce qu'on a à perdre? Mais si personne ne se manifeste, Dieu ne se surmanifestera pas. J'attends après vous, mes enfants, dit l'Éternel. Je n'ai pas d'autres mains que les vôtres. Je n'ai pas d'autres yeux que les vôtres. Je n'ai pas d'autres bouches que les autres. Si personne n'y va, je n'irai pas. Je n'ai que vous. Cessez de considérer les obstacles, mais regardez à ma vision et engagez-vous avec ma vision. Si je suis avec vous, c'est moi qui vous livre vos ennemis. Tu n'as pas besoin d'être plus fort, plus intelligent, plus riche que cet adversaire. Tu as juste besoin que Dieu soit avec toi. Tu as juste besoin que Dieu te livre ses ennemis. Amen. C'est important pour nous de le saisir. Amen. Et Dieu est là pour le faire. Et regardez une chose qu'il a faite. La Bible nous dit que quand ils se sont avancés, Jonathan a utilisé ses mains et ses pieds pour arriver jusqu'au champ. Alléluia. Dieu veut que tu puisses utiliser, que je puisse utiliser, que nous puissions utiliser ce que nous avons. Il n'a pas attendu après un renfort. Il n'a pas attendu après d'autres ressources. Il n'a pas attendu après une quelconque aide. La Bible nous dit qu'il s'est aidé lui-même avec ses mains et ses pieds. Amen. Alléluia. Dieu a mis quelque chose en toi et ce qu'il y a en toi suffit pour te présenter là où il faut, pour que Dieu se surmanifeste. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Amen. Il a utilisé ses mains et ses pieds. Ses mains et ses pieds représentent ce qui fait partie de notre corps, ce qui fait partie de ton réseau, ce qui fait partie de ce qui, de ton ensemble. Amen. Utilise ta famille, utilise tes relations, utilise tes connexions, utilise ton réseau. Parce que les mains et les pieds font partie du même corps. Si je connais Réal, je peux me servir de lui aussi. Amen. Si je connais Guy, je peux aussi m'utiliser de lui. Ensemble, nous pouvons le faire. Comme un seul corps. En tant que couple, on peut le faire. Oh, je crois qu'il y a une puissance, il y a une onction puissante dans le mariage. Il y a une onction puissante dans le couple. Et c'est pour ça que l'ennemi s'obstine à détruire les foyers. Parce qu'il a peur de la puissance qui se dégage à travers les couples. Aujourd'hui, les couples sont ignorants de la force et de l'onction que Dieu a. Parce que c'est la première chose que Dieu a instituée dans ce monde. Vous pensez que c'est rien? Les premières choses sont toujours indicatives de la suite. Et l'ennemi est celui toujours qui vient ravager dans les fondements. Parce que quand les fondements sont renversés, la Bible nous dit, le juste que fera-t-il? C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on puisse faire quand les fondements sont renversés. Ramenons les choses à leur origine. Au Québec, on a besoin de ramener les valeurs. On a besoin de ramener les fondements. Les fondements du mariage, les fondements de la famille. On a besoin de ramener cela et cela aura une répercussion sur l'ensemble et sur tous les aspects, les domaines de la nation. Et Dieu veut réveiller les relations. Les relations brisées. Aujourd'hui, les gens souffrent de cela. Mais comme un seul corps, Dieu veut ramener. Ceux qui étaient séparés, ceux qui étaient éloignés, Dieu veut les ramener ensemble. Que les mains et les pieds s'activent pour que le corps puisse être fonctionnel. Là où il y avait une dysfonction, l'Éternel va ramener. Je déclare maintenant que si tu avais vécu des ruptures, que l'Éternel restaure ces relations. Ce frère avec qui tu ne parles plus, que l'Éternel vous ramène ensemble. Cette mère avec qui tu n'as plus d'intimité, que l'Éternel te reconnecte. Je prie que Dieu fasse un réveil qui va rassembler les parties du corps, les parties de la famille. Nous avons besoin que nos familles soient encore un. Nous avons besoin que chaque partie du corps se rassemble, que l'Église, que chaque membre de l'Église se mette ensemble comme un seul homme, comme un seul corps. Et c'est ce que Jonathan a fait avec ses mains et ses pieds, mais avec aussi son porteur d'armes qui suivait. À chaque mouvement que Jonathan faisait, lui aussi faisait comme son ombre. Je dis, waouh, quelle harmonie, quelle adéquation. Amen. Si Dieu est pour nous, nous avons de l'impact en avant comme en arrière, en amont comme en aval, au commencement comme à la fin. Parce que quand ils sont arrivés, c'est merveilleux. Pendant que Jonathan était en train d'en tuer à l'avant, son porteur d'armes était aussi en train de donner la mort en arrière. Je dis non, ça c'est Dieu. Quand Dieu est avec toi, bien aimé, au commencement comme à la fin, il y a de l'impact. En aval comme en amont, il y a de l'impact. En avant comme en arrière, Dieu couvre toutes choses. Parce qu'il est alpha et oméga. Il est le commencement et à la fin. Il est Dieu dans toutes ses dimensions. Alléluia. Mais ça prend qu'il soit avec nous. Et ça, c'est des signes que Dieu est avec nous. Amen. Mais au-delà de cela, bien-aimé, vous voyez, tel le maître l'est, tel aussi est le serviteur. Le maître, le visionnaire, donnait la mort au devant, le serviteur donnait la mort en arrière. Amen. Une adéquation, une harmonie de l'équipe dans la vision. On est un dans la vision. On est peut-être différent, mais on est un. On est complémentaire dans la vision. Dieu a besoin de ses particularités. On n'a pas tous besoin d'être les mêmes. Mais avec nos saveurs différentes, on peut les mettre dans une même sauce et donner un repas merveilleux au monde.
Amen.
De la même façon que tu as besoin de céleri, d'un peu de sel, d'un peu de tomate, qui sont tout aussi des ingrédients différents mis à part, mais mis ensemble avec la bonne dose, ça fait des merveilles. Et c'est ce que Dieu veut faire. Pouvons-nous être cette sauce qui va bénir le monde? Parce que Dieu, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, nous avons beaucoup de fruits dans un petit espace. Dieu nous montre qu'ils ont tué une vingtaine d'individus dans un petit arpent de terre, juste un petit espace. Une vingtaine est tombée à travers les mains de deux personnes. Je sais que quand Dieu est pour nous, les fruits sont abondants avec des petites ressources. C'est ce qui vient encore confirmer cette parole où Dieu dit, ne méprisez pas les faibles commencements, les jours du faible commencement. Le petit sera un millier. Dieu commence toujours dans le petit. Amen. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché la première fois? Parce que Adam et Ève ont été conçus en tant qu'adultes. Il y a un mystère. Quand Dieu a voulu restaurer dans l'humanité, il a dit non, cette fois-ci, je ne commence pas avec des adultes, je commence avec un petit enfant. C'est pour ça que le prophète a prophétisé, la Vierge enfantera un fils, un enfant. Jésus est venu comme un petit enfant. Et il a grandi en stature et en sagesse. Parce que Dieu dit, quand je peux commencer petit, il n'y a rien qui peut arrêter ce qui va venir. Quand le petit devient grand, il n'y a rien qui peut le stopper.
Amen.
Et quand nous stoppons déjà ce qui est mature, il n'y a plus d'espérance après. Adam et Ève étaient déjà adultes et matures. Mais Jésus est venu comme un enfant, dans l'humilité, dans ce qui est petit, pour que toute la gloire revienne à Dieu. Osons embarquer avec ce qui est petit, et Dieu fera des exploits. Amen. Dieu fera au-delà de ce que nous pensons et demandons. Bien-aimé, quand Dieu, si Dieu est pour nous, il aura la panique dans le camp adverse. Il aura une étape, une autre étape de victoire aussi. Quand Jonathan a commencé à se lever, à battre le Philistin, la Bible nous dit qu'il y a une panique généralisée qui est tombée dans le camp des Philistins. Une terreur. Je prie que la terreur ne soit pas dans ton camp, mais dans le camp de tes ennemis. Je prie que tu sois épargné de cette crise de panique qui t'arrive une fois de temps en temps. Je bannis cet esprit de peur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette peur ne soit pas dans ton corps, mais dans le camp de tes ennemis. Aujourd'hui, que tu sois libéré de tous les médicaments que tu prends pour te maintenir, pour gérer ces paniques. Dans le nom de Jésus, que tu sois libéré de ces crises de panique, car cela ne vient pas de Dieu. Si Dieu est pour toi, la panique sera dans le camp de tes ennemis. De quoi as-tu peur? Pourquoi devrais-tu avoir peur de ces circonstances? De cette ombre qui ne se réalisera jamais. Cette ombre est en train de te maintenir dans la captivité et t'empêche d'aller de l'avant. Parce que la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te paralyse. Mais Dieu a besoin que tu ailles de l'avant, que tu prennes des actes, que tu risques avec sa vision. Et aujourd'hui, l'Éternel veut renverser les choses. Que la peur que l'ennemi t'avait lancée soit relancée dans le camp de l'ennemi, mais en multipliant. Je prie que cette peur soit multipliée dans le camp de tes adversaires. Je vous dis qu'au Chélagan, maison neuve, entendra un bruit de grande terreur. Ils penseront que c'est toute une armée qui vient les ravager, pendant que c'est un petit nombre, mais avec Dieu. Amen. Amen. Les forteresses et les principautés entendront une grande terreur. Ils se diront, waouh, l'Éternel est tombé sur nous. Le jour de notre jugement est arrivé. Quand Dieu livre vos ennemis, peu importe leur grandeur, il y a une panique généralisée. Ou même les grands généraux ne savent plus agir. Bien aimé, la panique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche toute organisation. Elle réduit l'intelligence en insensé. L'ennemi est fort parce qu'il y a une forte intelligence et une forte organisation. Mais quand l'Éternel amène la panique, toute organisation est démantelée. Et l'intelligence, réalise, est-ce que vous réalisez pas que quand vous avez peur, votre raisonnement ne fonctionne plus normalement? Les battements de cœur sont rapides dans les palpitations et vous allez de gauche à droite. Votre intelligence, votre raisonnement n'est plus cohérent. Et si ta tête n'est pas fonctionnelle, tu ne peux pas réussir dans ce monde. La première chose qui entre dans ce monde, c'est une tête. Ce n'est pas des pieds. Quand un enfant sort, il serait quoi? C'est la tête en premier. Pour sortir d'une situation, tu sors d'abord la tête en premier. Dieu veut sortir ta tête dans le nom puissant de Jésus. C'est pour ça que cette parole vient renverser les forteresses, les raisonnements, tous les mensonges de l'ennemi, toutes les paniques qui t'ont été lancées, toute dépression dans le nom puissant de Jésus, toute panique s'arrête aujourd'hui par la proclamation de la vérité. Au nom puissant de Jésus, cette peur ne te regardera plus dans cette emprise. Je me lève contre cette peur qui s'est levée dans ce quartier, qui s'est levée dans ce territoire pour terroriser. Je me lève contre ces cornes de terreur dans le nom puissant de Jésus. Que les gens sortent de la dépression, qui sortent de la panique, qui sortent de toute anxiété dans le nom puissant de Jésus. Fini la dépendance des antidépresseurs et autres dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je me lève contre cet esprit qui circule dans ce territoire, qui circule dans ce beau Québec, au nom puissant de Jésus. Que les familles soient affranchies de cette terreur, que les familles soient affranchies de la dépression et de toute panique généralisée. Que nos enfants sortent de ces paniques qui étouffent leur potentiel. Je viens condamner cet esprit de peur et je la lance dans le camp de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes libres d'agir avec la vision de notre Dieu. Je refuse l'intimidation qui bat son plein dans les écoles de nos enfants. Dans le nom de Jésus, que cet esprit d'intimidation s'arrête maintenant. Je viens le condamner, le dénoncer, car cela vient voler le potentiel de nos enfants. Cela vient les étouffer. Plus jamais un enfant devra encore se suicider à cause de l'intimidation. Je me lève contre cela. Dans ce territoire. Car cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Et c'est un territoire, bien-aimé. Je vous encourage d'aller contre ce territoire. Nous allons nous lever, même dans les écoles, nous lever pour l'avenir de nos enfants. Nous refusons ces statistiques. Ça va s'arrêter. Le suicide infantile est le plus élevé au Québec. Dans tout le Canada et dans toute l'Amérique du Nord. Ça doit s'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Car ces enfants sont l'avenir de demain. Ces enfants sont des guerriers en Jésus-Christ. Je les appelle maintenant à sortir de là. Car ce sont des Jonathan et des porteurs d'armes de Jonathan. Alléluia. Il y a un reste que l'ennemi ne touchera pas. Je déclare qu'il soit épargné maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Car il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Quand Dieu est avec nous, avant de nous arrêter, il y a une autre étape de victoire. Quand vous lisez tout le chapitre, je vous encourage de le faire, vous verrez qu'il y a encore d'autres victoires qui se sont faites. Mais ce qui est bon dans tout ça, pour conclure, c'est le caractère de Jonathan qui a fait la différence, qui a fait que Dieu soit avec eux. Alléluia. Car Jonathan avait un caractère qui était avec Dieu, où Dieu pouvait se voir en lui, où il pouvait même pas avoir l'ombre d'un doute que Dieu était avec eux. C'est pour ça que son serviteur était tellement en confiance. Parce qu'il y a, non, c'est juste divin. Dieu est là. Pourquoi est-ce qu'on va hésiter d'aller? Tu représentes Dieu. Non, il y a Dieu. Il y a une connexion. Il y a une fluidité. Dieu est là. Je vais juste citer trois caractères. Premièrement, Jonathan était plein d'amour. Quand vous lisez sur la vie de cet homme, non. C'était un homme qui n'était pas centré sur lui-même. Jonathan était prêt à se sacrifier pour le peuple. Je vous donne juste un épisode qui s'est fait. Juste après cet événement, son père, le roi Saül, a fait un serment que personne ne devait manger quoi que ce soit. Mais Jonathan ne savait pas que son père avait fait ce serment-là. Et il s'est retrouvé devant une grosse marmite de miel et il a mis son doigt, il y a goûté. Et il s'est retrouvé très éveillé, très encouragé, fortifié par cela. C'était dans le champ de bataille. Ah, quelqu'un lui dit, mais Jonathan, tu n'as pas droit parce que ton père a fait un interdit que personne ne peut toucher. Il dit, non, mais mon père est en train de troubler le peuple. Regardez comment je me sens bien avec cela. Alors, quand il y a eu comme une grosse défaite, ils ont tiré au sort pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que tout le monde n'est pas là. Ils ont fait le recensement, ils voyaient qu'il y avait des gens qui manquent. Ok, il y a Jonathan qui manque avec son porteur d'armes. Le roi Saül, on dit, on tire au sort. Le sort tombe sur Saül et Jonathan. Donc vous deux, vous devez vous présenter parce qu'apparemment, vous êtes les coupables. On tire au sort entre Saül et Jonathan. C'est Jonathan qui est pris. Alors il dit, mon fils, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Non, papa, c'est vrai, j'ai mangé le miel. Ah, mais Saül a dit, en tout cas, l'Éternel est vivant, tu dois seulement mourir parce que moi, j'ai fait un serment. Vous avez la réponse de Jonathan? Il dit, oui, il n'y a pas de problème que je meure. Parce que j'ai violé le serment que tu as fait. Vous pouvez me tuer. Mais j'ai fait quelque chose pour la cause du peuple. Et le peuple s'est levé. Non, 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 non. À cause de la grande victoire que Jonathan a faite, Jonathan ne doit pas mourir. Serment ou pas serment, il n'y a aucun cheval de Jonathan qui va tomber ici. Jonathan a été sauvé par le peuple. Le peuple a dit non. Cet homme a risqué sa vie dans le camp de l'adversaire. Tout seul avec son homme d'armes. Et aujourd'hui, à cause d'une petite pincée de miel, il va mourir? À cause d'un serment stupide? Non. L'Éternel est vivant. Nous, nous décidons que Jonathan ne meure pas. Parce qu'il a déjà donné sa vie pour nous. Jonathan est capable encore de se sacrifier pour David. De Jonathan était le prince héritier. Il avait tout intérêt à éliminer David. Mais quand il a discerné la vision de Dieu, que Dieu avait décidé de donner la royauté à David, Jonathan s'y est plié. Il est devenu l'allié de David contre son propre père, le roi. Prêt à perdre ses privilèges et ses honneurs. Il est même allé donner son épée à David, ses vêtements princiers à David, à telle enseigne qu'on pouvait voir David et reconnaître en lui le prince, parce qu'à l'époque, on reconnaissait une autorité par les vêtements qu'il portait. Il a donné son identité princière parce qu'on devient roi de père en fils. David n'avait pas de lignée royale, mais ça s'est fait par un transfert de la part de Jonathan qui lui a transféré la royauté. Quel sacrifice! Et Jonathan même a reconnu, il a dit une fois à David, « David, je sais que Dieu a décidé que c'est toi qui seras le prochain roi. Et ma joie, c'est juste d'être à côté de toi. Wow » Waouh! C'est pour ça que son père, c'est le... Tu es idiot, toi, Jonathan. C'est pour toi que je fais ça. C'est toi qui dois devenir roi. Mais il a pu sacrifier. Quel amour! Pouvons-nous avoir cet amour sacrificiel? Tel que Jésus-Christ l'avait. Bien-aimé, Dieu est toujours là, il y a l'amour. Quand tu es plein d'amour, Dieu est avec toi. Il n'y a même pas de question. Dieu est avec toi. Quand tu as ce genre de cœur qui peut se sacrifier, alléluia. Dieu m'a appris une chose. J'étais dans beaucoup d'activités là. Et j'étais vraiment épuisé. Et j'ai commencé à penser à ma défunte mère. Je lui ai regardé les gens, je lui ai dit, ah, mais Seigneur, les autres ont leurs parents et tout. Mon fils grandit, ma mère ne la verra pas dans toutes ces étapes. Et j'ai commencé à penser de tous mes frères, je suis le seul, comme je suis l'aîné, auquel mes parents ont assisté à mon mariage. Ils n'assisteront pas au mariage de mes frères et sœurs. Mon fils aîné, ils étaient encore vivants. Et j'ai dit, Seigneur, et j'ai commencé à pleurer pour ça. Alors, je me sentais aussi tellement privilégié d'avoir reçu tous ces privilèges. Et le Seigneur me dit, au lieu de pleurer, reçois la joie de donner. Oh, ça m'a ébloui. Dieu dit, tu as beaucoup reçu afin que tu aies la joie de donner. Je t'élève maintenant pour que tu sois celui qui donne à tes frères. Amen. Pour que tu sois celui qui donne aux autres. Ne te plains pas quand tu donnes. Reçois maintenant la joie de donner parce que tu as reçu beaucoup. Tu as reçu ce à quoi les autres ont été privés. Oh, ça m'a libéré de la dépression que je commençais à avoir. Amen. Et c'est possible avec l'amour parce que l'amour donne. Recevons aujourd'hui la joie de donner comme Jonathan l'avait. Deuxième caractère, la loyauté à la vision. Vous savez, Jonathan était loyal à la vision. Quand il a discerné que Dieu appelait David à être roi, il a été loyal à David. Ainsi, David pouvait déclarer que l'amour de Jonathan est plus fort que l'amour d'une femme. À telle enseigne, quand même Jonathan était parti, David s'est souvenu des descendants de Jonathan, à cause de Jonathan. Il y avait une loyauté dans leur alliance. Et je crois une chose, parce que Jonathan était tellement loyal, il ne pouvait que produire des serviteurs loyaux. C'est pourquoi son porteur d'armes pouvait lui être tellement loyal et le suivre partout. Parce que lui-même était quelqu'un de loyal. Dieu veut que nous puissions avoir cette loyauté envers sa vision. Cette loyauté, bien-aimée, ne dépend pas des circonstances. Aujourd'hui, nous avons tellement de gens qui débarquent au moindre pépin. Et Dieu a tendance à nous éprouver pour voir. Aujourd'hui, tu dis oui, mais diras-tu oui quand tes intérêts seront menacés? C'est là qu'on connaît vraiment notre loyauté. Jusqu'où elle va? Notre loyauté est déterminée au niveau des défis que nous avons. Amen. Le dernier caractère de Jonathan, c'était sa foi audacieuse. Jonathan était toujours un homme d'action, un homme qui osait. Amen. Il a osé défendre David, quand bien même son père l'avait interdit. Il a osé prendre ce miel quand bien même il y avait un intérêt. Il a osé faire les bonnes choses malgré que les lois y étaient contraires. Laissez-moi vous dire une chose. Toute loi injuste n'est pas digne de notre obéissance. Ce n'est pas parce que quelque chose est écrit qu'on doit obéir. Il faut reconnaître l'esprit de la loi. Il y a beaucoup de lois qu'on a promulguées au Québec qui sont des lois anti-mariage, des lois anti-famille, des lois anti-jeunesse, des lois anti-humain. Et nous devons nous opposer. Il doit y avoir une désobéissance civile contre ces choses. Toute loi qui tend à réduire la pureté de l'homme, à réduire notre potentiel, notre dignité humaine, toute loi qui vient, qui tend à mépriser notre foi, n'est pas digne qu'on obéisse à ces lois. Amen. Toute loi qui vient perpétrer des anti-valeurs. Amen. Et Jonathan avait cette foi audacieuse qui pourrait aller à la contre de ces choses. Prendre des risques. Amen. Mais quand je vois ces trois caractéristiques de Jonathan, il y a un passage qui me vient en tête. C'est 1 Corinthiens 13, 13, où il est dit... Ainsi, ces trois choses, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et Jonathan avait ces trois choses. Une foi audacieuse et il avait une loyauté connectée à la vision qui amenait l'espérance. Et il avait un cœur plein d'amour, plein de charité, prêt à se sacrifier, jamais centré sur lui-même. Je dis, Dieu ne peut qu'être avec quelqu'un comme ça. Parce que Dieu est toujours dans tout ce qui demeure. Parce que notre Dieu est éternel. Aujourd'hui, même si nous sommes des êtres humains qui sont passagers, nous pouvons accepter des choses qui demeurent en nous. Ça va garantir et permettre à Dieu d'être avec nous, d'être pour nous. Dieu est pour nous quand nous avons en nous des choses qui demeurent. Amen. Que la charité, que la foi, que l'espérance soit en abondance au-dedans de nous. Une foi audacieuse. Amen. Alors pour finir, je viens dénoncer, je viens proclamer une délivrance de toute peur. Bien-aimé, pourquoi? Parce que la peur nous empêche d'avoir une foi audacieuse. Amen. Nous devons nous lever contre la peur. J'ai un agenda contre la peur. Amen. Une vendetta contre la peur. Une vengeance contre la peur. Plus jamais dans ma vie, je refuse d'être intimidé par quoi que ce soit, quoi que ce soit qui pourrait m'empêcher d'embarquer dans la vision de Dieu. Que toute peur dans ta vie, la peur de ce que les gens vont dire, la peur de perdre, la peur d'échouer, la peur de mourir, la peur de ne pas avoir assez, la peur de tomber malade, la peur de ceci ou de cela, nous devons les identifier et les bannir. Parce que ça va nous empêcher d'opérer dans une foi audacieuse. Je viens aussi dénoncer tout découragement. Ce matin, l'Éternel veut t'encourager. Car le découragement va t'amener au désespoir et va voler l'espérance. L'espérance en la vision. Va t'empêcher d'être loyal à toute vision de Dieu. Le désespoir commence toujours par un découragement. Mais quand le découragement devient désespoir, bien aimé, c'est comme ça qu'on retrouve des gens qui se suicident. Et je viens me lever contre l'esprit de suicide dans ce Québec. Au nom de Jésus-Christ. Qui commence généralement par une petite semence de découragement. Jusqu'à un désespoir généralisé. Aujourd'hui, la Bible déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que l'espérance revienne au Québec. Que l'espérance revienne en Chelaga Maisonneuve. Que l'espérance revienne dans nos cœurs. Que l'espérance revienne dans nos cœurs. À cause d'une vision, la vision pour l'avenir, la vision que Jonathan avait eue. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, nous pourrons relever ces défis. Amen. Et troisièmement, je viens dénoncer tout égoïsme parmi nous, dans nos vies. Amen. Parce que tant, bien aimé, nous avons tous des besoins, nous avons tous des problèmes. Mais j'ai appris très tôt dans la vie, se concentrer sur ses propres besoins ne les résout pas rapidement. Non. C'est ce qu'il y a de naturel. Chacun va penser à son problème, à ses besoins. Mais le jour où tu oseras donner un regard sur le besoin de l'autre, tu seras surpris dans quelle rapidité Dieu s'occupe de tes besoins. Je vous le dis. Toutes les personnes qui ont aidé les gens dans les besoins ne sont pas des gens qui étaient sans besoin. Pour votre information. Parfois, on a l'impression que pour que je fasse pour les autres, il faut que je sois complètement bien. Non. Papa Jean-Claude, que vous le voyez, il a des besoins, il ne vous en parle pas. Mais il est là, un cœur pour les autres. C'est des choses qui le font pleurer lui aussi, qu'il aimerait que Dieu agisse. Vous ne savez pas. Parfois, vous ne savez pas quel genre de maladie certains hommes de Dieu traînent. Mais sont là impliqués pour la guérison des autres. Alléluia. Parfois, tes besoins sont là juste pour te garder suffisamment humble pour que Dieu soit avec toi et qu'il fasse des miracles et des prodiges au travers de toi. Mais tu es obstiné à voir Dieu juste régler tes besoins. Moi, en train de chialer pour un rien. Cet esprit de chialage au Québec, je me lève contre cela parce que cela empêche un amour sincère. Au nom de Jésus, nous ne serons plus une bande de chialeurs dans cette province. Nous le refusons dans le nom de Jésus. Parce que c'est un esprit qui est contre l'amour. C'est un esprit qui empêche Dieu d'être pour nous, d'être Dieu, d'être avec nous. Plus jamais. Aujourd'hui, nous allons centrer nos cœurs sur les autres et non sur nos propres besoins. Et laisser Dieu agir au travers de nous et bénir les multitudes. Parce que tu as quelque chose à donner, j'ai quelque chose à donner. Mais tant si longtemps que je suis centré sur mes besoins, je ne libérerai jamais ma main. Je ne libérerai jamais ce que j'ai pour l'autre. Est-ce que vous avez déjà vu un oranger manger ses propres oranges? Tu es un arbre fruitier, mais dont les fruits pourrissent parce que tu es concentré à manger tes propres fruits. Le jour où un arbre commence à manger ses propres fruits, l'arbre se gâte. Et c'est un arbre qui est maudit, comme Dieu, Jésus-Christ a maudit le figuier. Nous devons sortir de cette malédiction. Et c'est cette malédiction qui est attirée vers le Québec à cause de cet esprit-là. J'aimerais que toi et moi, nous puissions nous lever contre cela, dans nos familles, dans notre entourage. Ne soyons pas de ceux qui chialent à tout bout de champ. Et ne soyons pas là de ceux qui sont en train d'écouter les gens chialer à tout bout de champ. Arrêtons-les et montrons-leur qu'ils ont quelque chose à donner, qu'ils ne sont pas finis, qu'ils sont importants. Et vous verrez, ça marche. Généralement, quand les gens disent, waouh, ah ouais, il y a vraiment quelque chose que je peux. Tout n'est pas foutu dans ma vie. Je suis quand même utile à quelqu'un. Mais oui. Et tant que tu es centré sur toi-même, tu ne verras jamais ton utilité. Amen. Jonathan avait compris ça. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de notre Dieu? Alléluia. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Nous allons... Alléluia, priez notre Dieu, priez pour notre Dieu à cause de ce qu'il fait parmi nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Nous voulons que tu sois avec nous, Seigneur. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Ce matin, cet après-midi, Seigneur, nous voulons que tu sois encore avec nous. Mais Seigneur, nous voulons être avec toi. Être avec toi par notre amour. Être avec toi, Seigneur, mon Dieu, par notre espérance. Être avec toi par notre loyauté. Être avec toi par notre foi audacieuse. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui. Nous voulons être comme Jonathan, nous voulons être comme ce porteur d'armes, oh Dieu. Papa, Seigneur.